Il n'y a pas de sas à ce moment-là. On passe de chez soi à une situation de guerre, après avoir pataugé dans le sang pendant près de 2 heures, avoir vu des centaines de gens morts, blessés. Bon, là, il y a des moments un peu difficiles.
Vous ne pourrez pas voir son visage, mais vous allez pouvoir entendre son histoire. Jérémy Milgram est mon invité cette semaine.
Comment avez-vous appris à dompter votre peur ?
Il y a des moments où on n'a pas le choix. Sur l'usage d'une arme à feu, par exemple, on a peut-être un quart de seconde pour décider de savoir si on fait usage de son arme ou pas.
Vous avez quand même vu beaucoup d'horreurs. Est-ce qu'à un moment, il n'y a pas un trop-plein ?
Être sans cesse au cœur du danger, voilà le quotidien de Jérémy, chef de groupe à la brigade de recherche et d'intervention.
Et c'est qu'un travail de groupe. Alors effectivement, il y a plusieurs individualités qui peuvent être fortes, avec des forts caractères, mais on travaille en groupe, pour le groupe. C'est comme ça que ça fonctionne. Je sais pas, on peut voir le pire comme le meilleur, mais...
Et vous parvenez quand même à garder foi en l'humanité ?
En l'humanité, non. Vraiment pas, non.
Juste avant de commencer cet épisode, j'aimerais juste remercier sincèrement les personnes qui prennent le temps de s'abonner au podcast et de laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. Je sais qu'on ne pense pas toujours à le faire, mais si vous appréciez écouter son contenu ou s'il vous a déjà inspiré, alors c'est vraiment le meilleur moyen de nous soutenir. Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Jérémy Milgram. Bonjour Jérémy.
Bonjour Louise.
Jérémy Milgram, qui est donc votre pseudonyme, parce qu'on ne peut pas révéler votre prénom, votre nom, votre identité. C'est pour ça qu'on ne vous verra dans cet épisode que de dos pour ceux qui nous regardent. Mais dans tous les cas, beaucoup nous écoutent et le principal, ça reste ce qu'on a à dire. Vous êtes chef de groupe à la BRI, donc la Brigade de Recherche et d'Intervention, qui fait pas mal couler d'encre, qui reste très mystérieuse. J'ai hâte d'en savoir plus, en fait. J'ai vraiment hâte que vous nous partagiez votre histoire, votre parcours, qui est raconté dans votre dernier livre illustré, Les Anges Gardiens du 36. Voilà. La première question que je pose à tous mes invités, c'est de se présenter de la façon dont ils le souhaitent.
Alors, je vais faire... c'est assez commune. Hein. Je suis ouais. Jérémy, j'ai 50 ans cette année. Je suis marié, j'ai 2 enfants. Et je suis à la BRI depuis 17e année maintenant, 23e année de police. Je suis parisien d'origine, un vrai parisien. Un petit séjour dans le sud de la France et je suis remonté sur Paris. Et voilà ce qui me concerne.
Ouais. Bon, on va parler pas mal du coup de votre vie professionnelle, même si ça m'intéresse après de savoir comment s'imbrique votre vie personnelle. Mais déjà, bah, tout simplement, qu'est-ce qui vous a amené à la BRI ? Qu'est-ce qui vous a amené et ensuite on ira sur... Comment arrive-t-on à la BRI ? Parce que ça n'est pas destiné à tous.
Alors, ce qui m'a amené là, moi j'ai un parcours un peu particulier parce qu'avant d'être policier, j'ai été professeur d'éducation physique dans l'éducation nationale. Et j'avais depuis longtemps l'envie d'entrer dans la police, mais je n'avais pas fait forcément les études qui allaient bien. Et j'ai été détaché, alors que j'étais professeur d'éducation physique, j'ai travaillé pour le ministère de l'Intérieur sur l'aspect technique des tests de recrutement. L'aspect physique, et j'ai rencontré des policiers et ils m'ont dit, bah écoute, si ça t'intéresse, nous, t'as un profil qui peut être intéressant, pourquoi tu tentes pas le concours ? Et c'est un petit peu comme ça que je suis venu, sachant que la BRI, c'est quelque chose que j'avais découvert dans un livre, qui sont les mémoires du commissaire Broussard, que j'avais lu quand j'étais même au lycée.
Est-ce que c'est lui le fondateur de la BRI ?
Alors, c'est pas le fondateur. Non, c'est pas lui. Le fondateur, c'est un commissaire qui s'appelle François Lemoël,
ouais.
Qui a fondé l'unité en 1964.
Ok.
Et Broussard, ça a été un des chefs les plus emblématiques dans les années 80.
D'accord.
Donc c'est lui qui a incarné, c'est l'époque Messrine. C'est très incarné par Broussard. Et c'est notamment à travers ses mémoires que quelque chose qui m'a toujours intéressé. Je ne pensais jamais être en mesure ou pouvoir être en mesure de l'intégrer, cette BRI. Surtout que je n'étais pas du tout dans la police au départ. Et petit à petit, le fait de pouvoir rentrer dans la police, j'ai essayé de construire un parcours qui me permettait d'avoir plus de chances de rentrer dans l'unité.
Et alors déjà, ce passage à la police, parce que mine de rien, c'est quand même une vraie reconversion. C'est quoi votre processus de réflexion ? Qu'est-ce qui vous convainc de le faire ? Comment vous y parvenez, quoi ? Parce que parfois, entre le rêve et le but, on n'y arrive pas toujours. Donc comment ça se passe ?
Sur l'aspect, je pense que j'avais une forme de vocation depuis longtemps, qui a été un peu contrariée, parce que j'ai fait des études, encore une fois, qui ne me destinaient pas du tout à ça. Et quand j'ai décidé de m'y mettre, bon là, j'ai été confronté à la réalité des concours administratifs, sachant que je n'avais pas fait de droit du tout, hein, puisque moi j'ai une formation au départ de STAPS. Là. Et donc là, je me suis retrouvé avec un 50 cm de droit à apprendre par cœur.
Sympa.
Tout seul. Donc je m'y suis mis et ça a fonctionné.
Ok.
Voilà, j'avais un parcours qui a intéressé, je pense, les membres du jury de concours. et ça a fonctionné.
Donc en fait, juste la besogne, quoi. Vous avez bossé de côté.
À l'ancienne, un peu, quoi.
Okay. Non, mais c'est rassurant de savoir que même sans base en droit, on peut l'acquérir, quoi.
Alors, j'avais une culture générale qui était... je m'étais toujours intéressé, je lis beaucoup. Et pour le coup, la formation STAPS, malgré tous les a priori et les préjugés qu'on peut avoir, développe pas mal de culture générale.
Ok.
Donc cette partie-là, je l'avais eue. Et le reste, bah oui, c'est ça, c'est de la... Il faut s'y mettre, quoi.
Et donc, vous entrez en quelle année dans la police nationale ?
Je rentre le 1er janvier 2001.
D'accord. Ouais, avant, en plus, les attentats du 11 septembre, bon, même si ça ne nous touche pas, nous, directement, ça reste une période qui, à mon avis, secouait pas mal.
Ça nous touche... Ça nous touche facilement.
Et alors, quel a été votre parcours au sein de la police avant l'intégration de la BRI ?
Alors, je suis retourné... J'étais professeur en 93 avant de... d'intégrer la police et par le jeu des affectations, je me suis retrouvé de nouveau dans le 93, dans le secteur d'ailleurs où j'étais prof.
D'accord. Vos élèves,
J'étais amené à interpeller deux anciens élèves qui ne comprenaient pas du tout pourquoi j'étais là. Un matin, chez eux, et en me disant « Mais monsieur, qu'est-ce que vous faites là ?» Mais bon, ça c'est pour l'anecdote, mais j'étais dans une unité de maintien de l'ordre et d'anticriminalité sur le 93 au départ. Donc la sécurité publique, hein, la police de la rue. Ensuite, j'ai intégré le service départemental de police judiciaire du 93, toujours. Où là, j'ai mené des enquêtes, notamment tout ce qui était viol, les agressions, les vols aggravés.
Alors, je suis obligé de vous poser la question, hein, même si ce n'est pas directement notre sujet, mais surtout, j'imagine que c'était particulièrement le cas à l'époque. Comment ça se fait qu'il y ait aussi peu d'arrestations suite à des viols, ou si peu de prise en charge. Et je sais que la police est décrite pour ça, donc je trouve que c'est l'occasion de vous donner la parole, hein, les principaux concernés, parce que j'imagine que ce n'est pas une non-volonté de votre part. Donc, mais moi, ça m'interpelle vraiment quand on voit que ce soit les viols, les féminicides, les violences conjugales, en fait, qu'il y a encore aujourd'hui des chiffres si alarmants, quoi.
Alors, moi, c'était il y a un certain nombre d'années. Hein,
ouais.
Ça. Et en police judiciaire, généralement, il y a quand même le filtre des commissariats. Donc nous, ce qu'on avait à traiter, c'est ce qui était le plus abouti, le plus avéré déjà dans la commission des faits. On avait les faits les plus graves.
Donc que vous pouviez condamner
Donc, alors nous, on ne condamne pas.
Ah oui, c'est la justice.
Parce qu'il y a ça aussi. Hein.
Ouais.
Mais on avait vraiment des victimes avec des faits qui pouvaient être même un peu sordides. Hein. Et on avait le temps, contrairement au commissariat de police, d'enquêter, puisque nous, on avait un groupe dédié à ça. Une forme de technicité, on pouvait prendre le temps de plusieurs mois s'il fallait pour essayer de retrouver les auteurs de viol et on a et ça passait aux assises, quoi. Donc de notre côté, on essayait de faire le maximum. Après, je saurais pas répondre sur la situation actuelle, mais en tout cas, ce que je sais moi pour côtoyer des policiers qui travaillent en commissariat, c'est qu'aujourd'hui ils sont formés et puis la parole de la victime, quelle qu'elle soit, elle est vraiment prise en compte.
Ouais.
Alors, à la marge, il peut y avoir des comportements qu'on peut regretter, mais franchement, pour l'essentiel des policiers, ils sont plutôt attentifs et ils essaient de faire ce qu'ils peuvent, quoi, dans la mesure de ce qu'ils peuvent faire. Quoi.
Non, mais en fait, c'est aussi inhérent à la situation de l'agression, qui est finalement la parole de quelqu'un contre la parole de quelqu'un d'autre. Et c'est ça qui est très compliqué, je trouve, en fait.
Alors ça, c'est ce qu'il y a le plus compliqué.
Ouais.
Parce qu'on peut aussi avoir il faut pas le dire, mais ça existe aussi, on peut avoir
Oui, il y a des mensonges, c'est sûr.
Des mensonges, des règlements de compte entre personnes. Il faut faire la part des choses et c'est pas évident.
Ouais, parce que en fait, je me dis, s'il y a une femme qui vient nous voir, qui est une femme battue, en fait, on peut pas lui dire de rentrer chez elle parce que, en fait, pour l'instant, on peut rien faire. Il y a vraiment moi, j'ai des personnes qui m'écrivent, qui me disent ça, quoi, parce que on leur dit plus ou moins, faut attendre qu'il recommence pour qu'on puisse vraiment porter plainte.
Alors. Bon, je pense qu'aujourd'hui, ça a un peu changé, mais encore une fois, nous, on traitait vraiment les cas avérés. Mais pour le tout venant, effectivement, c'est compliqué, parce que je pense qu'il n'y a pas forcément toutes les structures adéquates.
Et l'associatif vient pallier un peu à ça, donc bon, voilà, c'est important de le rappeler, sachant qu'en plus, samedi 25 novembre, c'est la journée de lutte contre les violences faites aux femmes. Donc du coup, vous êtes dans cette brigade, on peut dire
C'est un service de police judiciaire.
Service de police judiciaire. Qu'est-ce que vous faites ensuite?
Et ensuite, j'essaie d'intégrer la BRI.
Ah ouais, voilà. Donc assez rapidement, finalement.
Assez rapidement, c'est-à-dire à peu près au bout de 2 ans dans le service d'enquête.
Ok. Voilà. Et quel est le processus, alors, quand on veut intégrer la BRI?
Alors, je vais vous parler du processus aujourd'hui, parce que moi, à l'époque, c'était encore différent. Mais depuis une quinzaine d'années, ça a changé.
Ok.
Maintenant, ça s'oriente autour de trois phases, en fait. Il y a d'abord une phase où on se présente, tout simplement, avec un CV, un peu classiquement, et on passe un entretien avec le staff de direction de la BRI, un entretien psy. Eux font la BRI fait sa propre sélection parmi tous les candidats, et on est convoqué pour une semaine de test, qui n'est pas facile. On dort pas beaucoup.
Ouais, j'ai vu ça dans le livre, dans vous en parlez. Et alors, vous dites, au début, on est 20, à la fin, vous êtes 6 pour 4 retenues. Qu'est-ce qui arrive entre les 20 et les 6? C'est Koh-Lanta? C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui part à chaque fois ou...
Alors, la différence avec Koh-Lanta, c'est qu'on ne s'élimine pas entre nous. Ouais, les candidats ne s'éliminent pas entre eux.
C'est pas mal, déjà.
Non, ouais. En fait, il y a plusieurs choses qui se font. Il y a ceux qui, très vite, comprennent que ce n'est pas pour eux. Il y a ceux pour qui c'est trop dur. Il y a ceux qui réalisent qu'ils sont trompés. Et qu'effectivement, encore une fois, c'est pas forcément ce qu'ils attendaient. Et il y a ceux que nous, on décide de pas garder, parce qu'on décèle chez eux. Ah, c'est pas pour autant que ce sont pas des bons policiers. Hein. Mmh. Mais ils ont pas les qualités que nous, on recherche particulières, qu'on demande à un policier opérateur à la BRI.
Quelles sont ces qualités? Quelles qualités demande-t-on à un opérateur de la BRI?
C'est compliqué, parce que nous, on exerce deux métiers, en fait. On a ce métier d'opérateur d'intervention, même titre que le RAID ou le GIGN, c'est-à-dire travailler sur des crises graves, travailler en groupe, on parle de colonnes d'assaut souvent, donc là c'est des choses qui se rapprochent un peu du militaire, avec des process, avec des... Ça c'est la première phase, et aussi beaucoup de sang-froid, une condition physique, ça c'est la première phase du travail. Et la seconde phase, qui est un peu l'ADN de notre brigade, c'est le travail de police judiciaire de terrain, c'est-à-dire de la surveillance, de la filature et de l'interpellation dans la rue. Mmh. Donc là, ça paraît antinomique un petit peu les deux métiers, mais en fait, nous, on pense qu'un métier nourrit l'autre. Et c'est pour ça qu'on a besoin de personnes qui, dans la rue, vont passer, c'est-à-dire pas forcément des gens hyper musclés.
Qu'on repère, quoi.
Qu'on repère au bout de deux minutes. Il nous faut des gens, j'ai envie de dire, qui passent.
De la vie de tous les jours.
De la vie de tous les jours. En plus, nous, on est amené à travailler en banlieue, on est amené à travailler en centre-ville, on est amené à travailler. Donc, il faut des gens un petit peu qui puissent s'intégrer dans tous les environnements, passer inaperçus, et qui ont cet instinct un petit peu de recherche du renseignement, de recherche de l'affaire. On parle un peu d'instinct d'un peu de chasseur. Donc, ce qu'on veut pas, nous, c'est des gens qui viennent et qui attendent qu'on leur dise quoi faire. On veut des gens qui fassent preuve d'initiative, qui soient débrouillards. Et en même temps, sur la partie. Première partie dont j'ai parlé, l'intervention, on veut des gens qui soient capables d'écouter et d'appliquer des process qu'on leur a inculqués. Donc c'est pour ça que le profil est un petit peu difficile à trouver.
Vous parlez aussi d'un dernier processus de sélection qui est le grand oral.
Ouais.
Pour savoir si...
Alors je continue sur fameuse semaine. Là.
Oui,
donc, à la fin de la semaine, il y a déjà un premier oral, donc il y a une première sélection qui est faite. Il y a une deuxième phase qui est assez importante, c'est une immersion dans les groupes. Donc pendant 15 jours... là, le candidat, sur une semaine, il y a des candidats qui arrivent un petit peu cachés leur personnalité. Et là, pendant 15 jours, ils sont au sein des groupes. Alors, pas en première ligne, mais au sein des groupes, ils vivent avec les groupes. Et là, c'est très dur de cacher son caractère et ses émotions sur 15 jours. À l'issue, c'est là où le grand oral arrive.
D'accord.
À l'issue de ces 15 jours.
Et en quoi il consiste, ce grand oral?
Alors, on se sert un petit peu de tout ce qu'on a vu sur les deux premières phases. C'est assez intimidant parce qu'il y a la direction de la BRI, il y a des psys, il y a des chefs de groupe. C'est assez intimidant. Mmh. On n'est pas sur un grand oral de culture générale.
Hein. Oui, j'imagine.
Mais on essaie de reprendre un petit peu ce qu'on a pu voir dans la phase de sélection et de les mettre un petit peu face à leurs contradictions. Si on avait des choses qui ne nous ont pas plu, au contraire, si on avait des choses qui nous ont plu, de détecter un peu la réelle motivation des candidats, jusqu'où ils seront prêts à aller. S'assurer de la compatibilité également avec leur vie perso.
Et donc ça, par exemple, je ne sais pas, est-ce que le fait d'avoir des enfants, c'est rédhibitoire?
Non, mais par contre, il faut être en mesure de s'organiser en permanence pour pouvoir ou confier ses enfants. Et c'est ça qui est compliqué. Mmh. C'est que la frontière vie privée et vie professionnelle, elle est un petit peu floue.
Mmh, mmh, mmh. Et donc, vous réussissez ce grand oral. Vous le savez quand
À l'issue.
À l'issue, direct, ouais. On vous dit c'est bon.
Ouais, on réunit tout le monde.
On consulte quand même.
Oui, non. À chaque fois, il y a une forme de débrief de chaque candidat. Ensuite, il y a un débrief général et ensuite, on l'annonce au candidat.
Et quand vous nous dites qu'il souhaite savoir quelle est votre réelle motivation, quelle est la vôtre?
Parce que, encore une fois, c'est vraiment le service qui m'intéressait parce qu'il y avait cette double compétence.
Mmh.
Et parce que. Ce que je trouve agréable, moi, c'est qu'à Paris, puisqu'on est à la BRI Paris, on est toujours, dès qu'il se passe quelque chose de grave ou d'important ou de sensible, on est toujours impliqué d'une manière ou d'une autre. Donc il y a une forme de. on est un petit peu accro à ça, mais on est toujours au cœur un peu du réacteur sur des affaires sensibles. Et ça, c'est quand même sur les 15 dernières années, dès qu'il y a eu quelque chose vraiment qui sortait un peu de l'ordinaire, on était associés d'une manière ou d'une autre. Et ça, c'est vraiment agréable. Enfin, agréable.
Oui, non, c'est stimulant.
C'est stimulant.
Ouais. À quoi ressemblent vos journées?
Alors, les journées, elles sont un peu, de par notre activité, il n'y a pas deux journées qui se ressemblent. Bon, on a des phases d'entraînement qui sont programmées.
D'accord. Donc, vous avez des...
Alors, il y a du tir, de la tactique, des spécialités, donc le tir de longue distance, la VARAP, donc c'est descendre sur corde dans les bâtiments ou monter. Ce genre de choses, donc là, c'est imposé, puisqu'il faut qu'on s'entraîne, il faut atteindre un certain niveau de qualification et l'entretenir. Ouais. Et ensuite, le reste se fait en fonction des opérations qui tombent. Alors, ça peut être une opération qu'on a pu faire ce matin, nous, c'est-à-dire aller chercher un individu à son domicile à 6h du matin, ou des opérations de surveillance, filature. Et à ce moment-là, quand on est sur une opération où on suit des voyous, bah là, l'emploi du temps, il se cale sur celui des voyous. Mmh. C'est pour ça que je vous disais que la frontière entre vie privée et vie publique, vie privée et vie professionnelle, elle peut être ténue un petit peu parce que les voyous, ils appellent ça travail. Mais l'activité, c'est plutôt le soir.
Ouais, l'activité illégale se déroule.
Leur activité, de leur point de vue, ce n'est pas forcément... Enfin, pour eux, c'est vraiment leur quotidien, mais ils travaillent le soir et la nuit, quoi.
Vous avez vu la série BRI?
Ouais.
Vous en pensez quoi? Parce que, alors, moi, par rapport à ce que vous venez de me dire, je l'ai vu, moi, j'ai interviewé le cast à Cannes, et par rapport à ce que vous venez de dire, je trouve que c'est quand même assez bien retranscrit. Le côté, c'est des gens de la vie de tous les jours, c'est pas du tout forcément ce qu'on imagine être à l'élite de la police. Ils ont ce côté où, oui, en fait, toute la nuit, ils peuvent suivre quelqu'un en attendant qu'il sorte de chez lui. Enfin, j'avais l'impression que c'était assez fidèle à... mais non.
On voit bien qu'ils ont essayé de faire quelque chose qui se rapprochait un petit peu de ce qu'on faisait. Moi, ce qui me gêne là, c'est que... pour moi, la BRI, et c'est pas pour moi d'ailleurs, c'est la BRI et même la police en général, c'est un travail de groupe. Et c'est qu'un travail de groupe. Alors, effectivement, il y a plusieurs individualités qui peuvent être fortes, avec des forts caractères, mais on travaille en groupe, pour le groupe. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Quelqu'un qui irait faire une surveillance tout seul, comme on peut le voir dans la série, mais après, je comprends qu'ils aient des impératifs aussi dramatiques pour que les gens aient envie de regarder. Mais on ne peut pas fonctionner sur ce qu'eux, ils montrent, c'est-à-dire une somme d'individualités. C'est un travail vraiment d'équipe en permanence. Et c'est ça que j'ai pas ressenti dans le feuilleton, mais dans la série. Mais bon, après, c'est une série.
Ouais, c'est important de le dire, mais ça m'intéressait d'avoir votre avis. Et c'est pas difficile pour vous de réussir à avoir cette mentalité vraiment du collectif, sachant qu'en plus, quand vous étiez professeur, finalement, c'était vous et vos élèves, quoi. Vous venez pas particulièrement d'un background où vous travaillez en groupe dès le début.
Non, mais alors moi j'ai toujours aimé travailler en groupe.
D'accord.
Et ce qui a été plus simple pour moi, c'est que je suis parti, quand je suis arrivé, on était des groupes de 8 à l'époque, un peu plus. Et je suis arrivé avant-dernier de groupe. Donc j'ai franchi un petit peu toutes les étapes, donc je sais un petit peu ce qu'on attend d'un opérateur.
Parce qu'au sein de ce groupe, il y a une hiérarchie.
Voilà, c'est aussi ça que je voulais dire par rapport à la... C'est très hiérarchisé. Ça paraît pas forcément. Parce que tout le monde, on se tutoie, on vit ensemble, mais c'est très hiérarchisé au sein du groupe et même au sein de la BRI.
Ouais.
C'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que rien ne se fait sans une validation ou une autre. Donc c'est très... Ça, on a beau être une bande de copains, parce qu'on est une bande de copains, à force de vivre ensemble à longueur de temps, mais pour autant, quand le chef ou l'adjoint du chef ou le chef d'équipe dit quelque chose, on a beau être son pote depuis 10 ans, 15 ans, on fait ce qu'il nous demande. Ouais. C'est ça qui n'est pas facile tout le temps.
Donc c'est quoi la hiérarchie au sein de la brigade?
On a un staff de direction qui est composé d'un chef de service, d'un adjoint au chef de service. Donc c'est des commissaires de police.
Okay.
Ensuite, on a une commissaire de police chapeaute les 4 groupes opérationnels.
Okay.
Avec en adjoint un ancien chef de groupe. Et ensuite, on a 4 chefs de groupe et 4 adjoints de chefs de groupe.
D'accord.
Et au sein des groupes, on a aussi des chefs d'équipe. Donc okay. Des petites équipes dans les groupes.
Okay.
Donc c'est très hiérarchisé.
Ouais, c'est sûr. Et de l'extérieur, je me dis toujours que c'est... Enfin, comment est-ce que vous parvenez à... Comment dire? Je sais pas, à ne pas en vouloir, par exemple, à un collègue quand il a merdé.
Ouais, alors la chance qu'on a, par rapport à d'autres structures, police ou autres, c'est qu'on choisit les gens avec qui on travaille, puisqu'on les sélectionne.
Ouais.
Donc au final, on a quand même des gens qui sont un peu dans le... qui correspondent à ce qu'on cherche. Donc, des gens qui sont expérimentés, beaucoup.
Mais vous ne l'étiez pas, par exemple ?
Non, alors au début, on est très encadré.
D'accord.
Quitte à être même binômé. Mmh. Et on apprend. Et après, des erreurs, on en fait tous. Et même au bout de 15 ans, on en fait, quoi. Il y a des rituels comme ça, quand on fait une bêtise, bon, bah, qui n'a pas forcément des conséquences dramatiques, mais
oui.
Bah, après, on paye sa tournée, ou on paye son petit-déj, ou on fait ce qu'il y a à faire, quoi.
Mmh.
Mais oui, ça arrive. Et ça arrive comme on est très engagé de manière opérationnelle, fatalement, des erreurs, on en commet, quoi.
Vous faites partie du processus de recrutement aujourd'hui ?
Oui.
Qu'est-ce qui est rédhibitoire pour vous ?
Il y a deux choses. Il y a tout ce qui a trait à la personnalité.
Mmh.
C'est-à-dire quelqu'un qui est très individualiste, par exemple. Pour nous, c'est complètement rédhibitoire. Je reviens à la série.
Ils n'auraient pas été pris.
Non, je ne pense pas. Enfin, c'est pour certains, en tout cas. C'est vraiment la chose rédhibitoire. Et ensuite, sur l'aspect professionnel, bon, bah, après, si le manque d'expérience... Ou le problème à gérer son stress.
Ouais, ça c'est un vrai sujet. Ça, enfin, c'est vraiment ce que je me disais à la lecture du livre. C'est vous êtes en permanence exposé au stress finalement, parce que ce soit dans la phase de filature ou que ce soit dans la phase d'opération, enfin, ne serait-ce que cette vigilance ou même là, vous nous avez dit, il va falloir faire des pauses pour vérifier qu'on vous appelle pas en fait en mission ou voilà qu'il n'y a pas une urgence. Comment vous apprenez ou comment vous avez appris à gérer ce stress ?
Alors ce stress, déjà, bah, c'est pour ça qu'on essaie de recruter des gens qui ont un peu d'expérience, parce que ça, ils l'ont développé dans leur poste
précédent ouais.
Clairement. Notamment ceux qui viennent de brillante criminalité, ils sont aussi dans un stress permanent, puisqu'ils cherchent du flagrant délit, ils sont confrontés à de l'opposition, donc ça, c'est quelque chose qu'on cherche déjà. Et ensuite, la gestion du stress, il y a une phase d'apprentissage parce qu'elle est spécifique un petit peu chez nous aussi. Et c'est pour ça qu'on travaille en groupe également, parce qu'on se complète un petit peu. Et ben, on l'entraîne un petit peu la gestion du stress. Alors sur la partie intervention, donc gestion de crise, intervention spécialisée, comme on n'en a pas tous les jours, heureusement, ben là on met en place des entraînements qui nous mettent en condition de stress pour développer ça. Et ça, c'est important.
Donc pour vous, le stress est un muscle qui se travaille ?
Ouais, alors oui, il se travaille à l'entraînement pour la partie intervention, ou il se travaille pour le coup, c'est pour ça que je vous dis qu'une spécialité nourrit l'autre, parce qu'en surveillance, en filature, ou lorsqu'on veut interpeller un individu dans la rue, là on a du stress, du vrai stress opérationnel à gérer. Et on acquiert de l'expérience dans la gestion de son stress.
Mmh.
Et donc quelqu'un qui aura fait X interpellations dans la rue compliquées d'individus dangereux, le jour où il faut effectivement aller sur une crise avec des terroristes, il aura emmagasiné toute cette expérience-là. Mmh. Il pourra s'en servir. C'est pour ça qu'on garde ces deux compétences.
Est-ce que votre stress vous a déjà fait défaut ? Et si oui, quels enseignements en avez-vous tiré ?
C'est-à-dire qu'il aurait pris le pas sur...
Lors d'une intervention ou d'une opération, ou genre le stress, vous êtes laissé dépasser par votre stress et...
Alors, j'ai de la chance, moi ça ne m'est pas vraiment arrivé. Il y a des fois où effectivement, j'ai pu avoir un temps... Avant d'agir, me poser la question de qu'est-ce que je devais faire, parce qu'il y avait l'information arrivait et que c'était un peu compliqué, mais c'est là où il y en a toujours un, c'est pour ça qu'il faut travailler en groupe.
Ouais.
Parce qu'il y a toujours un camarade, lui, qui va percuter plus vite ou qui va peut-être vous orienter vers la bonne ou la mauvaise décision.
Mais la prise de décision, c'est un vrai sujet aussi.
Voilà, ça,
surtout sous stress.
Exactement. Et pour autant, à un moment donné, la prise de décision, par exemple, si on parle d'usage d'une arme, la prise de décision, elle sera in fine individuelle et la responsabilité, elle sera aussi individuelle. Même si on est en groupe.
D'accord.
Ça, c'est compliqué. Et il y a ce fameux droit... nous, on doit analyser une situation. Nous, quand je dis nous, mais c'est vrai pour les policiers en général. Sur l'usage d'une arme à feu, par exemple, on a peut-être un quart de seconde pour décider de savoir si on fait usage de son arme ou pas.
Et on doit, pendant ce quart de seconde, se demander si ça correspond à tous les critères
qui
nous autorisent à faire.
Est-ce qu'on est dans le cadre d'usage des armes ? Est-ce que la vie de mes collègues ou la mienne est en danger ? Est-ce que ça répond à tous les critères ? Est-ce que je peux faire autrement ? Parce qu'après, votre décision, là, celle que vous prenez en un quart de seconde, elle va être analysée, disséquée pendant des mois par des magistrats.
D'accord.
Et par les médias, et par, par plein de gens, en fait. Eux, ils seront à froid et tranquillement. Et c'est pour ça qu'il faut l'intégrer. C'est pas toujours facile.
J'ai l'impression que le stress, en fait, c'est beaucoup plus inné que acquis. Enfin, la résistance au stress.
Il y a une part d'inné, clairement. Mais je pense que on peut vraiment développer une meilleure résistance et une gestion de stress à travers des entraînements et à travers du vécu opérationnel. Mmh. Ça, j'en suis persuadé. Parce que moi, je vois les jeunes qui arrivent et je les vois au bout de 5-6 ans. Mmh. Je vois comment ils gèrent leur stress. Et il y a une vraie évolution. Et moi aussi, d'ailleurs, c'était mon cas.
On a parlé de ce qui était rédhibitoire pour rejoindre la BRI. À l'inverse, qu'est-ce qui est indispensable pour vous? Qu'est-ce qui va faire que vous vous dites homme, cette femme, je les veux dans mon équipe?
Alors, si on enlève l'aspect, encore une fois, physique, où là, on a des critères minimum, mais sur lesquels on ne dérogera pas. Après, en fait, souvent, on résume ça, est-ce qu'on aimerait passer 8 heures dans une voiture avec ce mec-là? Ou cette personne-là? Ça, c'est un bon critère.
Mais du coup, finalement, c'est vachement une histoire de feeling.
Il y a une part feeling. Alors nous, on essaie de mettre en place des tests normés pour réduire cette part de subjectivité. Mais à un moment donné, effectivement, notamment sur la deuxième phase, il y a une phase de feeling, ouais, parce que est-ce qu'on a envie de travailler avec cette personne dans le boulot qui est le nôtre? Et ça, c'est important.
Et donc, quel conseil vous donneriez, là, s'il y a des personnes qui nous écoutent, qui veulent rejoindre la BRI, pour maximiser leurs chances?
Il faut qu'ils acquièrent de l'expérience professionnelle. On appelle ça la voie publique, là, c'est le terme policier pour dire la rue. Ça, c'est important. Ou alors à travers des groupes d'enquête, comme moi j'ai pu faire, ça c'est aussi de l'expérience. Et qui développe ce travail de groupe et d'être curieux, surtout, d'être curieux, de s'intéresser un petit peu et d'essayer vraiment de se... C'est assez facile parce qu'il y en a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un qui est à la BRI, donc se renseigner vraiment sur ce qu'on attend, sur quel est le travail, demander, et n'est pas hésité à venir nous voir et puis à discuter avec nous. Des attendus, quoi.
Ouais, c'est sûr. J'imagine que là, de toute façon, on vous écoute, donc déjà, on a pas mal d'infos, mais c'est toujours mieux d'aller voir les principaux concernés. On a parlé du stress, mais j'avais aussi envie de parler de la peur, parce que je trouve que c'est l'émotion la plus difficile à dompter. Autant le stress, je pense qu'il y a une part, en effet, d'inné, on est anxieux, on l'est pas, etc. Autant la peur, je pense vraiment qu'elle nous concerne tous et toutes. Comment vous avez réussi, ou comment avez-vous appris à dompter votre peur?
C'est un petit peu comme le stress, c'est à travers l'entraînement et l'acquisition d'expérience qu'au final, la peur, dans l'action, on ne va pas trop avoir peur parce qu'on est en train d'agir, d'appliquer des process. On est en action. Donc pendant l'action, on n'a pas peur. On fait les choses. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on arrive à les faire, même dans un contexte particulier.
Et je crois que c'est presque primitif.
Ah oui, parce que là, le cerveau, il se met un peu en mode survie reptilien.
Voilà, c'est ça, ouais.
Et il y a deux solutions, c'est où on se bat, où on s'en va, le fight.
Fight or flight, ouais.
Et nous, on est là pour le fight, donc, et on essaie de tester des gens qui ont un attrait pour ça.
Ouais.
Et quelquefois, on peut se rendre compte, a posteriori, oui, qu'on n'est pas passé loin du drame.
Ouais.
Mais dans l'action, c'est pas vraiment un souci, quoi. Et là, l'effet groupe joue à plein. Parce qu'il y a des choses qu'on ferait jamais seul. Par contre, quand on est entouré de ses camarades,
ça se ressent dans le livre. Parfois, vous dites le fait de, enfin, vous avez du coup ces process où vous touchez la personne devant ou à côté, et que vous me partagez qu'en fait, ça vous rassure, quoi, de savoir que, en fait, vous n'êtes pas là tout seul, quoi.
Je résume, mais en gros, avant d'entrer dans une pièce où on est susceptible de rencontrer quelqu'un qui nous attend d'hostile, le fait d'avoir un contact et de savoir que moi, je vais rentrer, mais derrière, mon copain, il va rentrer aussi, fait qu'on y va, quoi. Alors que seul, c'est pas du tout la même.
Et en dehors de ces moments d'intervention, est-ce que vous avez déjà été pris par la peur? Ça peut, j'imagine, vous prendre parfois quand vous mesurez finalement l'ampleur de ce que vous faites, que ce soit pour vous ou pour vos proches. Est-ce que vous avez déjà été confronté à cette peur?
Pas une peur, mais une forme d'appréhension sur, avant de déclencher une action, par exemple, des conséquences possibles. Ça, ouais. D'ailleurs, à un moment donné, il y a des conditions. J'essaie de le raconter dans le film, d'ailleurs.
Bientôt.
Dans le livre sur... dans le sens de la fête, là, où on essaie d'interpeller des gens dans le cadre d'un mariage. Ça, c'est typique le moment où est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas. Parce que si on y va, peut-être qu'on va réussir, mais peut-être qu'il va se passer des choses. Et alors que si on n'y va pas, au final, bon... On se retire de ça, on ne nous dira pas grand-chose. Ça, c'est le choix, ouais, d'y aller ou de ne pas y aller.
Qui relève de l'intuition ou qui relève d'un processus de prise de décision défini en interne?
Il y a des moments où on n'a pas le choix. Je parle, par exemple, de libération d'otages. Là, il faut y aller, il n'y a pas le choix.
Ouais. C'est le plus important, je crois, dans
C'est la dans la hiérarchie, ouais, pour les groupes comme nous, la libération d'otages, c'est ce qu'il y a de plus haut. Où là, on va peut-être un petit peu aller au-delà, se mettre en danger, parce qu'il y a des otages à sauver. Maintenant, quand il s'agit d'interpeller un individu, par exemple, il y a des fois, on fait un petit peu la balance risque-bénéfice. Est-ce qu'on va se mettre en danger pour interpeller ce véhicule ou cette personne? Alors, ça dépend de ce qu'il a fait, bien sûr. Mais est-ce que ça vaut le coup de casser des voitures, d'avoir des policiers blessés pour interpeller quelqu'un qu'on pourra peut-être interpeller la semaine prochaine? Tout ça, c'est des choses... alors ça relève beaucoup du chef de groupe.
Ouais. Oui, c'est de la stratégie, en fait.
C'est de la stratégie, et c'est, à un moment donné, on n'y va pas. Là, on peut avoir de l'appréhension et sur les conséquences de son choix, notamment quand on est chef de groupe ou chef de service, si la décision se prend plus haut.
Vous avez déjà eu des regrets ?
Oui. Oui, j'ai eu des regrets, mais quelquefois des regrets de ne pas avoir fait, plutôt.
D'accord.
Moi, j'ai plutôt tendance à y aller et de compter les points à la fin. Donc, quelquefois, on se trompe. Hein. Mais effectivement, le fait quelquefois de dire, on n'est pas sûr, en gros, on les frappe sur plus gros, hein, je schématise un petit peu. Et finalement, on n'aboutit à rien parce que la personne ou s'en va, ou on ne le revoit plus. Oui, ça, on a eu des regrets sur ces genres de choses.
C'est vrai que ça va être difficile. Hein. On va pouvoir prédire l'avenir.
Ouais, c'est
ça. Ouais. Est-ce que vous faites des négociations avec des otages? Enfin, avec du coup des preneurs d'otages?
Alors,
on a
un groupe de négociateurs.
Ok.
À la BRI.
Ok. Qui est dédié à ça?
Alors, on en a deux qui sont dédiés à ça quasiment à plein temps. Et on en a ensuite qui sont également opérateurs et négociateurs. C'est-à-dire qu'ils peuvent être opérateurs dans le groupe d'assaut une semaine et ensuite négociateurs, ce qui est pas mal. Et eux, ils s'entraînent à ça et on les met en. À chaque opération, ou sur un forcené, c'est-à-dire quelqu'un de retranché chez lui armé, ou sur une prise d'otage, on a des négociateurs qui sont engagés. Parce qu'on va toujours passer par la négociation.
Qu'est-ce qu'on apprend, en fait, de base pour négocier avec...
Alors, moi, j'ai pas la formation de négociateur, okay. Mais ce que j'ai pu voir avec l'expérience et voir travailler juste à nos côtés, c'est qu'il y a beaucoup déjà de crises qui sont résolues par la négociation.
J'avoue que moi, ça me fascine. J'ai vu comme ça, on avait fait des... Il y a une masterclass comme ça, je la mettrai dans les notes du podcast d'un homme, je ne sais plus qui, mais qui était en effet aux États-Unis spécialiste sur le sujet. Et je me dis toujours, mais comment quelqu'un qui est assez fou pour déjà prendre en otage des gens accepte, par la force de l'échange, de relâcher?
Ça dépend un peu du mobile de départ.
Ouais.
Il y a des gens qui peuvent être désespérés et la négociateur arrive un petit peu à les remettre dans la réalité.
Donc oui, c'était sur le... Vous parliez du mobile.
Oui, c'est très lié au contexte un petit peu de prise d'otage. On peut être confronté à la prise d'otage familiale, par exemple. Un mari qui refuse la séparation et qui prend un enfant, ses otages en enfant, ou sa femme qui veut partir. Bon, ça, c'est des choses qu'on fait régulièrement. Donc ça, le travail du négociateur, ça va être de le faire un petit peu, prendre conscience un petit peu de ses actes et lui offrir une porte de sortie, parce que c'est souvent ça. On a le voyou qui, à l'issue, par exemple, d'un braquage de bijouterie, va se retrancher... prendre un otage au hasard et essayer de négocier un petit peu ce qu'il peut négocier, mais il n'a pas intérêt, lui, à tuer la personne, puisque tout dépend du contexte.
Ouais.
Après, il y a ceux qui ont une vraie pathologie psy.
Ouais.
Alors, c'est encore un autre. On a vu, c'est ça. Et il y a le terrorisme, là, où c'est encore une autre manière de penser, où les otages sont qu'un moyen d'arriver à leur fin. Quoi. Donc, en fonction de la situation, il y a différentes techniques de négociation qui seront mises en œuvre.
Est-ce que vous, il y a une, j'ai envie de dire, un outil que vous avez appris en observant vos collègues négociateurs, que vous avez retenu et peut-être que vous avez appris à appliquer dans votre vie personnelle?
Alors, l'empathie, ça aide. Ça aide, aux négociateurs à prendre contact avec le preneur d'otage ou le retranché. Et même nous, dans la vie de tous les jours, l'empathie, même dans le management, enfin, j'aime pas ce terme de management, dans le leadership d'un groupe spécialisé comme... j'ai la charge, prendre l'empathie, c'est quand même l'outil premier pour que ça fonctionne. Quoi.
Pourquoi vous n'aimez pas le terme de management?
Parce que pour moi, on manage des voitures.
D'accord.
On ne manage pas des hommes.
Ok. Et qu'est-ce que vous entendez par leadership?
D'utiliser au mieux les compétences de chacun au profit d'un groupe. Quoi. C'est pour ça que je dis que je n'aime pas le management.
Comment vous avez appris à être un bon leader?
En faisant des erreurs, plein, petit à petit. Et j'essaie de ne pas les renouveler. Et c'est pas facile.
Ça doit pas être très encourageant pour les personnes qui nous écoutent de se dire « Ok, je vais apprendre à devenir leader en me trompant. »
Ouais, mais en fait, c'est comme ça qu'on apprend. Ouais, il n'y a aucune autre... Alors, si on est bien formé, on va utiliser l'expérience d'autres, son prof, des erreurs que lui aussi a pu commettre pour gagner un petit peu de temps sur le fait d'être un bon leader. Mais à un moment donné, il faut faire, et faire, ça veut dire qu'on va faire des erreurs. Quoi. On va commettre des erreurs et qu'on va essayer de les rattraper. Malheureusement, il n'y a pas trop de... L'école du leader... Il y a des techniques, enfin, il y a des choses à éviter, clairement.
Comme ?
C'est un peu les bases de la... Bah, comme le micromanagement, pour le coup, qui est quand même la pire des choses, pour moi. Surtout dans notre métier.
Ouais.
Il n'y a rien de pire. Nous, on a des gens qui sont expérimentés et très techniques. Donc, si on commence à faire du micromanagement, on va les perdre en... à repasser par ce qu'ils font, à ne pas les laisser un petit peu... travailler, là on va les perdre immédiatement.
Vous avez des formations continues ?
On a des formations continues dans les disciplines techniques, beaucoup.
Ok.
C'est-à-dire la tactique, usage des armes, les spécialités dont je vous parlais tout à l'heure. Ça, on se forme quasiment à 50% de notre temps, c'est dédié à la formation continue.
D'accord. Ah oui, c'est énorme.
Oui, c'est énorme. Et ça, c'est une chance, hein, parce que dans les services de police classiques, c'est... s'ils ont 3 jours de stage par an, c'est bien.
Il y a une phrase que j'ai notée, extraite de... Songe gardien du 36, qui envoie dans la préface donc d'Olivier Marchal, mais on peut évoquer un acte de guerre auquel ils ont survécu et dont ils sont ressortis glorieux. Et en fait, je me suis dit à la lecture de cette phrase, la gloire, c'est vraiment ce qu'on voit de l'extérieur. Mais qu'en est-il de l'intérieur ? Qu'en est-il quand vous vivez une opération particulièrement violente, sanglante ? Et même si, entre guillemets, elle termine bien parce que vous arrêtez les responsables, comment vous parvenez à gérer votre vie intérieure ?
Là, il fait allusion au 13 novembre, au Bataclan. Donc effectivement, mais si l'opération en elle-même, la nôtre, s'est bien passée d'un point de vue tactique, la situation générale, elle était tellement dégradée qu'il n'y avait pas de gloire, personne ne s'est tapé dans la main, quoi. Avoir pataugé dans le sang pendant près de 2 heures, avoir vu des centaines de gens morts, blessés. C'est plus, effectivement, quand on en reparle après, qu'on peut se dire, bah, ce soir-là, on a fait quelque chose de bien, peut-être. C'est dans ce sens-là qu'il l'écrit. C'est pas la gloire au sens... Il y a quelquefois, pour le coup, c'est très différent si on interpelle des voyous. On fait, par exemple, une enquête un peu longue et on interpelle les voyous en flagrant délit. Là, on va se taper dans les mains et on va se dire, tiens,
c'est bien sympa, joué.
Ouais, c'était super. Là, sur ce genre d'opération-là, ou de contre-terrorisme, ou même si on agit dans le cadre, par exemple, d'une libération d'otages dans une situation familiale compliquée, si malheureusement il y a des victimes, même si on résout la situation, personne ne va se taper dans les mains. Et c'est ça où il n'y a pas de gloire là-dedans. Quoi.
Et même quand il y en a, comment vous le vivez de l'intérieur ? Ce que les gens ne voient pas. Qu'est-ce qui se passe quand vous rentrez chez vous ?
Alors c'est un peu compliqué le moment où on rentre chez soi. Notamment, je ne vais pas parler trop du 13 novembre, mais pour le coup, c'est un petit peu quand même flagrant. C'est que le 13 novembre, on est parti de chez nous vers 21h15, 21h30. Parce qu'on a été averti qu'il se passait quelque chose dans Paris, qu'il y a des attaques terroristes en cours. Et on est revenu à la maison vers 6h du matin. Donc on est pas, il n'y a pas de sas à ce moment-là. On passe... de chez soi à une situation de guerre qu'on n'en a pas vu depuis 1945 et retour à la maison. Là, il y a des moments un peu difficiles. Et c'est un peu compliqué. Et là, l'entourage est fondamental. Et heureusement que la plupart d'entre nous, pour quelqu'un qui est seul, là, bon, après, il y a les amis, hein, et puis il y a le groupe surtout. Je reviens à cette notion de groupe.
Ouais.
Mais ça, c'est compliqué, ouais, effectivement. Le fait d'avoir un cadre familial ou amical fort autour, c'est important dans ces moments-là.
Vous parlez aussi dans le livre, pas mal, je trouve, des enseignements tirés du Bataclan et ce que ça a changé dans votre façon d'intervenir ou dans l'équipement, etc. Quelles leçons, vous, personnellement, vous avez tirées de cet attentat ?
Il y a toute une dimension déjà technique, hein, puisqu'on a... On a changé le dimensionnement de la BRI, on a changé son armement, la manière d'agir. Dans notre état d'esprit, on a changé également. Le 2015 nous a fait changer, puisqu'on n'avait pas trop eu affaire, nous, tout cas de ma génération, à des terroristes qui étaient prêts à mourir et dont le but était, en fait, était de mourir en nous emmenant avec eux. Notre travail quotidien, c'est plutôt les voyous. Les voyous, leur but, c'est ou de nous échapper, pour éviter d'aller en prison. L'idée première du voyou, c'est pas de tuer des flics pour tuer des flics. Donc ça, il y a un vrai switch à faire, nous, en fonction de l'affaire dans laquelle on intervient. Ça, c'est quelque chose qu'on a appris. Et on s'entraîne pour.
Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est la BRI CT, c'est ça ?
C'est ça.
Contre-terrorisme ?
C'est ça.
Parce que quoi ? Parce que, en fait, à un moment, vous vous êtes rendu compte que ça prenait tellement d'ampleur qu'il fallait faire quelque chose ?
Bah, alors, c'est aussi lié au fait qu'avant, ça s'appelait la BRI anti-commando. C'est une appellation qui regroupe, en fait, la BRI et les unités de la préfecture de police qui s'agglomèrent autour de la BRI dans le cas d'une crise majeure. Et dans les années 70, ils ont créé ce terme d'anti-commando parce qu'on souvent on parlait de commando terroriste. Le problème, c'est que ça pouvait prêter à confusion parce qu'un commando, c'est d'abord un terme militaire.
D'accord.
Donc les gens ne comprenaient plus, puis ça faisait bac, alors comme les bacs. Donc là, le chef de service actuel a voulu un petit peu redéfinir la mission. Il a précisé, donc c'est pour ça qu'on est passé de la BRI BAC à la BRI CT, donc contre-terrorisme.
Donc aujourd'hui, est-ce que la majorité de vos opérations continue à concerner les voyous, ou est-ce que le terrorisme et la lutte contre le terrorisme prend de plus en plus de place ?
Alors, le fonds de commerce, comme, c'est quand même les voyous. Mais on est beaucoup engagé sur des personnes radicalisées, et ce genre de choses, de plus en plus.
Et vous avez vraiment vécu, vous, au cours de ces 15 dernières années j'ai envie de dire l'explosion du terrorisme. Enfin,
de
cette forme-là, telle qu'elle existe aujourd'hui, les terroristes suicidaires, les...
Oui, clairement. Ça, c'est quelque chose d'assez nouveau. Nos anciens, ils avaient beaucoup travaillé sur le terrorisme d'extrême gauche à travers notamment Action Directe. Ils étaient très impliqués dans la lutte contre Action Directe. Mais le terrorisme islamique tel qu'il est, avec cette notion de martyr, de tout ce qu'il y a autour, oui, c'est assez nouveau pour nous.
Comment on a mis un terme au terrorisme d'extrême gauche? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui c'est plus une...
Moi je pense qu'on n'a pas mis un terme au terrorisme d'extrême gauche.
D'accord.
Il a changé un petit peu de... Enfin les extrêmes d'ailleurs, quels que soient les extrêmes,
oui.
Mais je pense qu'ils ont changé un peu de mode opératoire, mais qu'on est... Ça n'engage que moi, mais la DGSI travaille régulièrement sur les extrêmes.
Ouais.
Et empêche la commission d'actes terroristes.
En fait, y compris, tous les jours presque. Quoi.
Bah, peut-être pas tous les jours, mais souvent, ouais. Et y compris... dans des extrêmes. Quoi.
D'accord.
Donc,
Parce qu'en fait, je me disais, si c'est aujourd'hui, en effet, plus le terrorisme islamique qui prend de l'ampleur, comment est-ce qu'on a réussi à réduire peut-être les autres formes ? Et finalement, la question sous-jacente, c'est comment peut-on parvenir à réduire la croissance, au moins, si ce n'est éradiquer, cette nouvelle forme de terrorisme, quoi.
Alors, le travail de la police, ça va être d'empêcher la commission d'attentat.
Ouais.
Ensuite, le travail de fond de réduire, c'est plus politique peut-être.
Ouais.
Donc là, ça nous échappe un petit peu. Quoi.
Ouais. Éducationnel, politique.
Ouais, c'est ça, c'est ouais. Sociétal. Pourquoi les gens rejoignent les extrêmes. Enfin, nous, on est vraiment là pour les empêcher de passer à l'acte. Quoi.
Ouais. Oui, c'est déjà mieux vaut prévenir que guérir. Quoi, mais... En fait, c'est vrai que ce qui est compliqué, en plus, je trouve, avec votre métier, c'est qu'on voit beaucoup plus ce que, entre guillemets, vous ne réussissez pas, ou alors, en tout cas, les moments critiques, alors qu'on ne voit pas tout ce que vous parvenez à déjouer.
Ouais. Alors, nous, encore une fois, on va être à la fin de l'action, hein, puisqu'on va nous dire, tiens, je parle beaucoup de terrorisme, là. Il y a des services de renseignement qui vont travailler sur le terrorisme en amont. Nous, on va être sur la finalité, l'interpellation. Donc, on a presque le beau rôle, hein, parce que le travail en amont, il est beaucoup moins mis en
lumière, c'est sûr. Oui, mais bon, après, vous êtes face au risque.
C'est vrai aussi. Mais en fait, c'est ce travail en amont de renseignement qui fait qu'on va pouvoir interpeller des terroristes avant qu'ils passent à l'action. Quoi.
Ouais.
Et ça, c'est vraiment l'articulation entre les deux qui est importante.
Est-ce que vous avez peur de la mort ?
Non, c'est pas quelque chose auquel je pense tous les jours. Peut-être plus qu'est-ce qui se passerait pour mes proches si j'étais plus là, mais la mort en elle-même, non, pas particulièrement.
Est-ce que vous aviez déjà des enfants quand vous avez rejoint la BRI ?
Ça s'est fait de manière un peu concomitante.
Ok. Et ça a changé quelque chose dans...
Non,
ça n'a pas changé Parce que j'imagine que la peur est différente quand c'est nous-mêmes impliqués.
Oui, après, si, sur certaines... Sur 2015, par exemple, effectivement. Alors, pas pendant, mais après, quand on trouve sa famille, on se dit, tiens, quand même.
Ouais, là, je mesure le risque que j'avais pris.
Et pas, pas quotidiennement.
Et la charge mentale qui vient avec, finalement, ces 17 années de loyaux services, vous avez quand même vu beaucoup d'horreurs. Est-ce qu'à un moment, il n'y a pas un trop-plein ?
Peut-être, mais pour l'instant, moi, c'est pas, le réservoir n'est pas plein. Mais okay. Peut-être qu'à un moment donné. Mais pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va. Et le fait de rester, je pense, dans ces fonctions-là et dans cette boyade, ça permet aussi de lisser un peu tout ça.
Vous n'avez jamais eu un problème de santé mentale ?
Il faudrait demander aux, aux gens qui travaillent avec moi.
Je pense que vous seriez le premier au courant, quand même.
Non, je, non,
non, mais voilà, stress post-traumatique.
Je pense qu'on a tous eu un peu de stress post-traumatique à des degrés divers.
Ouais.
Mais ça se gère. Enfin, il n'y a pas eu de cas vraiment qui ont impacté à un tel point que la personne n'a plus travailler. Quoi.
D'accord.
Donc, on a eu des gens, oui, qui ont été. Moi aussi, hein, certainement. J'étais peut-être un peu plus sur les nerfs, problème de sommeil, tout ça, mais rien de, de rédhibitoire sur, pour pouvoir poursuivre un peu son activité.
Mm. Vous vous souvenez de votre première intervention ?
Je me souviens de la d'un, alors c'était une intervention, c'était ouais, un enlèvement. Je me souviens d'un enlèvement, effectivement, où je venais d'arriver, on m'a dit, on cherchait la victime d'un enlèvement et les auteurs, entre voyous. Et on me dit, bah, tu t'assois là, à la terrasse de café, et puis si tu vois telle voiture, bah, tu nous le dis. Puis je m'assois à la terrasse de café, et puis je vois arriver sur ma droite deux mecs avec un troisième. Je voyais quelque chose qui n'allait pas, puis je regarde comme ça et je me dis, ça ressemble à la photo qu'on m'a montrée tout à l'heure de la victime et des auteurs. Je dis, c'est pas possible, ça peut pas être ça.
Ah ouais.
À moi que j'étais là. Je n'osais même pas passer à la radio parce que c'était juste à côté de moi, mais donc j'avertis un copain du groupe, un ancien, je lui dis, je sais pas, mais viens voir, fais un passage, je pense que c'est eux. Et effectivement, bah, il dit, bah ouais, effectivement, c'est eux. Donc on a interpellé tout le monde sur la terrasse de café et parce qu'en fait, il avait emmené manger là, vite fait, avant de remonter dans l'appartement. Aussi bizarre que ça puisse paraître. Bon, mais...
Ah ouais, c'est clair.
Mais bon,
la livraison, les gars.
Entre voyous, quelquefois, il y a des choses un peu particulières. Mais ça, c'est vraiment marquant parce que je n'osais même pas le dire au début. Je me suis dit, c'est pas possible, ça ne va pas être ça. Je
t'as peur de tromper, quoi.
Ouais. Ça, c'était quelque chose de marquant quand je suis arrivé.
Ils sont assis à côté de vous, en fait.
Ouais, à la terrasse du café, dans le 17e.
Qu'est-ce qui a changé entre cette première intervention et la dernière, peut-être, que vous avez réalisée, comment vous avez changé ?
Bah moi, j'ai changé de rôle déjà au sein de la BRI. Donc maintenant, il faut que je, en plus de la gestion de l'intervention, il faut également que bah, je m'occupe du groupe. Quoi. Donc toute mon attention est accaparée également par cet aspect-là. Quoi. On en a parlé tout à l'heure, mais est-ce que ma décision va leur faire prendre des risques qui ne sont pas forcément utiles ? Est-ce que la stratégie est la bonne ? Donc, du coup, c'est ça qui a vraiment changé. Quand on est opérateur, bah, en fait, on attend un petit peu l'instruction et on a l'objectif, c'est d'interpeller tel mec ou de faire ça. Et quand on devient avec des fonctions d'encadrement, bah, se rajoute la prise de décision pour l'ensemble qui va engager bah, en fait, ses camarades. Et ça, c'est vraiment la vraie différence entre les deux.
Qu'est-ce que vous avez appris ?
J'ai appris à être un peu plus patient, parce qu'on me dit souvent que je suis impatient. Ça, clairement... Et puis j'ai tellement, encore une fois, fait d'erreurs que j'ai appris à travers ces erreurs à être un peu plus efficient et à prendre en compte un petit peu tous les éléments pour prendre une décision rapide et j'espère être la bonne. Quoi. C'est vraiment la différence. Quoi. Je prends des décisions plus vite et mieux.
Et sur quoi vous voulez continuer à progresser dans les années à venir ?
Toujours. En fait, c'est un métier où on n'atteint pas forcément... on est toujours en progression et en remise en question. Donc ça, et chaque jour, chaque nouvelle affaire ou chaque nouvelle intervention, on doit se reposer des questions sur est-ce qu'on va faire le bon choix. Il ne faut pas tomber dans une forme de routine, parce que il y a ce qui est bien. C'est là où on va faire vraiment des erreurs. Ou alors, prendre les choses à la légère, typiquement. Parce que même une petite interpellation peut se transformer en drame si on a un collègue qui se fait renverser ou s'il se fait tirer dessus. Donc ça, c'est... On apprend tous les jours, donc je ne me lasse pas par rapport à ça.
C'est vrai qu'on n'est jamais assez bon, entre guillemets, le sauvetage de vie. Quoi.
Ouais, puis on travaille sur une matière qu'on ne maîtrise pas en face. Les comportements de nos clients, entre guillemets, les voyous ou autres, et on n'a pas la main dessus. Donc on s'adapte en fonction d'eux aussi.
Qu'est-ce que ça vous a appris, peut-être si vous aviez un ou deux enseignements à nous partager, sur la psychologie humaine ? Parce qu'au final, c'est beaucoup, ça tient beaucoup à ça, quoi.
Ouais, alors pas que des bonnes choses. Hein.
Non. Nous, on voit mais un ça, peu peut être, le, ça peut être.
On voit un peu le pire de. Généralement, la police, déjà, quand on intervient, c'est qu'il y a déjà un problème. Donc les gens, quand ils appellent la police, c'est qu'ils ils passent une sale journée, généralement. Ce qui est important à comprendre, déjà. Parce que... Et nous, particulièrement, puisque nous, quand on intervient, normalement, alors je parle de la partie plutôt intervention spécialisée, c'est que vraiment, la journée est mauvaise. Je sais pas, on peut voir le pire comme le meilleur, mais au niveau, je n'ai pas assez de connaissances pour vraiment analyser la psychologie. Mais ce qu'on a pu voir, c'est vraiment il y a le pire, quoi, en termes de violence, en termes d'absence d'empathie, en termes de tout ce qu'on voit aujourd'hui. Quoi.
Et vous parvenez quand même à garder foi en l'humanité ?
En l'humanité, pas forcément, mais en la foi en des gens qu'on sait, envers ses camarades, sa famille, son cercle d'amis, oui. En l'humanité, non. Clairement pas, non.
Est-ce que ça nuit à votre bonheur ? Est-ce que vous diriez que vous êtes heureux ?
Oui, je pense que je suis heureux. Et pour autant, les drames quotidiens, mais pas que dans notre boulot, mais ce qui touche... aujourd'hui, on vit quand même dans un contexte un peu lourd, un peu particulier, de menaces, de ce qui se passe... Ukraine ou Moyen-Orient, enfin, tout ça est quand même montre à quel point tout est fragile, l'équilibre est fragile et que tout peut changer rapidement. Donc, si j'ai foi en l'humain, non, pas du tout.
Il y a une citation aussi que j'ai relevée. Bon, je ne sais plus si c'est Thomas Jefferson ou si c'est vous. Le prix de la liberté, c'est la vigilance éternelle.
Ah, c'est Thomas Jefferson. J'aimerais bien que ce soit moi.
En fait, je me demandais qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette citation ? Parce que, en fait, personnellement, je l'ai interprétée comme une forme de remise en question de l'éternel débat sécurité versus liberté, parce que finalement je l'interprète comme étant, qu'on pourrait traduire comme étant la liberté au final, c'est l'accès à la sécurité.
Oui, je pense que l'un va vraiment pas sans l'autre. Et la police est souvent décriée, par certains en tout cas, comme attentatoire aux libertés. Et en fait, je pense vraiment moi que s'il n'y a pas d'ordre, une certaine forme d'ordre en tout cas social, si c'est l'État qui a le monopole de la violence légitime, ce sera d'autres personnes qui seront moins bien intentionnées. Quoi. Et on peut voir ce que ça donne. Hein. Typiquement, la guerre, c'est la loi du plus fort. Ou dans des pays comme, par exemple, si on prend Haïti, où il n'y a plus d'ordre public, ça se résume à un affrontement entre différentes bandes. La garantie pour tous d'une certaine forme de liberté, c'est de pouvoir garantir la sécurité du plus grand nombre. Quoi. C'est cette phrase, effectivement, qui illustre mieux ce concept que sans sécurité, il n'y a pas de liberté.
Et qu'est-ce qui vous a inspiré l'écriture de ce livre illustré, de manière générale ?
Comme on le dit dans la quatrième de couverture, c'est vraiment une rencontre avec Jean-Charles, le dessinateur. C'est lui qui me propose au départ cette idée d'écrire et pourquoi pas illustrer. Je me suis pris un peu au jeu. Je n'avais pas d'intention d'écrire au départ, parce que j'ai pas vraiment de talent d'écriture. Et je me suis dit, bon, je vais commencer par une petite histoire, l'illustrer avec lui, puis voir quel est le rendu. On en a parlé avec l'éditeur, Louis de Mareuil. Et on s'est dit, bon, on va essayer de faire plusieurs histoires, et ça a l'air de fonctionner, donc pourquoi pas. Mais il n'y a pas de volonté au départ de longue date ou d'écrire pour. C'est plutôt une affaire d'opportunité.
D'accord. Mais je suis reconnaissante que vous l'ayez fait, parce que déjà c'est très bien écrit, très bien illustré, et puis en fait ça nous donne à vivre ce qu'on n'aurait très certainement jamais vécu sinon, ou connu sinon, quoi. C'est très immersif.
Ça, c'était un peu le but. C'est pas facile, il y a beaucoup de livres où en fait des gens racontent leur propre expérience, mais moi j'ai essayé de faire quelque chose qui n'est pas forcément incarné, où justement plusieurs personnes... des anciens, des jeunes, dans des postes un peu différents, pour pouvoir faire vivre au plus grand nombre un petit peu ce qu'on peut toucher du doigt, un petit peu ce que peut ressentir un opérateur de la BRI. Quoi, dans différents
spoiler, beaucoup de stress.
Ouais, c'est ça.
J'ai quelques dernières questions pour vous. Déjà, je ne vais pas faire semblant de ne pas le savoir, il n'y a pas de femme à la BRI. Qu'est-ce qui...
Attention, je vais...
Ah oui, parce vous allez corriger parce qu'il y a une commissaire.
Je vais corriger parce que je pense que...
si elle nous regarde.
Je vais avoir des problèmes. Non, on a deux sections à la BRI. On a une section de soutien et d'appui opérationnel où il y a des femmes donc qui passent également des tests, mais particuliers à cette section-là. Ils nous font tout ce qui est renseignement. Ils arment également les postes de commandement. Ça, c'est dans la partie soutien opérationnel. Et dans la partie intervention, la section qui comporte les quatre groupes opérationnels, on a une femme dans le staff de direction, qui est la première d'ailleurs, commissaire de police, et qui est là depuis 2 ans maintenant.
Donc dans votre groupe et dans les autres groupes opérationnels, il n'y en a pas encore ?
Non, il n'y en a pas encore.
Voilà. Ma question, c'est qu'est-ce qui, selon vous, hein, en tant que chef de groupe, ferait qu'on on parviendrait à plus de diversité dans ces équipes-là aussi alors, dans les années à venir.
Pour le coup, on a des tests qui sont ouverts à tout le monde, quel que soit le genre. On a des femmes qui se sont présentées, là, qui ont passé la première phase, qui ont été quasiment jusqu'à la fin de la première semaine. Alors, c'est plus vraiment un problème physique, parce qu'aujourd'hui, les femmes, notamment à travers le crossfit ou d'autres disciplines comme ça, atteignent des niveaux physiques qui sont assez équivalents à ceux des hommes, mais pour l'instant, on n'en a pas qui ont matché sur les attendus, tout simplement. Mm-mm. Et je pense vraiment que le jour où il y en a une qui fera l'affaire, elle fera l'affaire, et ça, les choses se feront naturellement.
Vous n'avez pas un conseil, là, s'il y a une femme qui nous écoute et qui se dit « moi, j'ai vraiment envie de rejoindre la BRI ».
Eh ben, il ne faut pas s'autocensurer, il faut venir et essayer, quoi. Tenter sa chance, comme font les garçons, quoi.
Mm-mm. Ok. Est-ce qu'il y a un ouvrage, ou un film, ou un podcast, enfin, une ressource qui vous a particulièrement touché au cours de votre vie et que vous aimeriez recommander aux personnes qui nous écoutent?
Il y a un film que j'adore sur cet univers-là, un peu là, qui est un vieux film, hein, c'est French Connection.
D'accord.
Avec Jim Hackman.
Ok, bah que j'ai pas vu, donc je le mettrai dans les notes.
Ça, faut le voir. Ça, c'est vraiment un film de police. C'est un vieux film, c'est 70-75.
Hein, ok. Si jamais vous pouviez entendre quelqu'un à ce micro, qui est-ce que vous aimeriez entendre?
Non, ma femme, je la verrais bien pour le coup. Alors, je dis ça, c'est pas pour faire plaisir, mais elle est policière aussi.
D'accord.
Elle est féministe. Donc, je pense qu'elle aurait plein de choses à dire également au micro.
Ok.
Avec un autre point de vue.
Je vais vous poser du coup la dernière question du podcast. Ça signifie quoi pour vous prendre le pouvoir de sa vie?
Prendre le pouvoir de sa vie, pour moi, ce serait vraiment ne pas s'auto-censurer. Essayer, se donner les moyens. Au moins de tenter sa chance et pas avoir de regrets, quoi. Ça, c'est vraiment pour moi, c'est comme ça que je vois les choses sur le pouvoir de sa vie, le contrôle de sa vie.
Mmh, mmh.
C'est tenter les choses.
Génial. Bah, écoutez, merci beaucoup, Jérémy.
Mais merci beaucoup
pour cet entretien.
Merci de m'avoir accueilli.
Pour les personnes qui nous écoutent toujours, qui veulent en savoir plus sur vous, j'imagine que du coup, vous n'avez pas de réseaux sociaux vers lesquels rediriger.
Non, pas du tout.
Donc, on les redirige vers le livre. Voilà, Les Anges Gardiens du 36 aux éditions Mareuil. Je mettrai tout ça dans les notes. Et puis, ben, merci quand même pour ce que vous faites.
Merci.
Au-delà d'être venu, merci. On a vraiment besoin de vous. Et moi, je suis très reconnaissante de me sentir en sécurité quand même grâce à des personnes comme vous.
C'est gentil.
À très bientôt.
Merci beaucoup.
Merci au vrai d'être arrivé au bout de cet épisode. J'espère que cette conversation vous a plu. Si c'est le cas, ça nous fait toujours plaisir de lire vos retours. Alors n'hésitez pas à nous taguer en story @inpowerpodcast @mybetterself. Et si vous cherchez quel épisode écouter ensuite, plus de 300 épisodes sont disponibles gratuitement sur InPower. Il suffit de vous abonner sur la plateforme que vous utilisez là, en ce moment même. Et si vous êtes super extra, de le faire découvrir à un proche à la recherche d'inspiration. Je vous dis donc à très vite pour un tout nouvel épisode d'InPower.